Il était une fois l'histoire d'un CFO qui, à l'heure de l'hypermédiatisation de l'intelligence artificielle, croyait davantage en l'humain, en la matière grise, un atypique de la finance, comme il se décrit, qui a rejoint depuis 2019 le groupe montois Iker, leader international de la maintenance prédictive de machines industrielles. Une entreprise qui réunit 700 employés et 50 millions de chiffres d'affaires. J'accueille avec moi sur ce podcast Jean-Thomas de Dobelaere, le CFO d'Iker, pour discuter de son métier, d'intelligence artificielle et de bien d'autres choses encore. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Laurie et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emasphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent, apprentissage, conseils et même morale de leur histoire. Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Bonjour Jean-Thomas, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Once Upon a Business. Je vais faire comme je le fais avec chaque invité, donc je vais te demander de te présenter avec tes propres mots, de nous présenter ton parcours.
Mais bonjour Laurie, je m'appelle Jean-Thomas de Dobelaere, je suis le CFO d'Iker Group. J'ai trois filles, je suis marié. Après des études assez généralistes de sciences de gestion à l'UCL, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans un Big Five à l'époque, chez Arthur Andersen. Et puis, j'ai bougé pour deux expériences plutôt américaines, on va dire, donc des boîtes actives dans l'industrie, une industrie du papier, l'autre l'industrie plutôt chimique, Georgia Pacific et Solutia, où je suis resté chaque fois environ 4 ans. Et puis, en 2010, j'ai rejoint la société IBA à Louvain-la-Neuve, pour 9 très belles années d'expérience. Et en 2019, donc il y a 4 ans, j'ai rejoint Iker Group pour ce rôle de CFO.
Ouais, et on salue donc Soumya Chandramouli, la CFO d'IBA, que l'on connaît bien et avec qui on a enregistré un podcast. Est-ce que tu peux nous parler en fait maintenant d'Iker en termes de secteur d'activité, de chiffres clés?
Alors Iker, c'est le leader global de la santé des machines industrielles. Ce que fait Iker, en fait, c'est la maintenance prédictive. Donc, c'est-à-dire qu'on va prédire les défaillances en analysant les données et finalement éviter que les problèmes surgissent et ne surviennent. Donc, ce qu'on fait, c'est du diagnostic de la santé des machines industrielles de nos clients, clients qui sont actifs dans différents domaines, que ce soit l'alimentaire, l'énergie avec le nucléaire et l'éolien, le pharma, la chimie. Et dans l'industrie, il y a finalement beaucoup de machines qui sont critiques et pour lesquelles tomber en panne n'est juste pas une option. Les conséquences d'un arrêt machine, elles sont d'ordre économique, ça c'est assez évident, mais pas que, aussi environnementales et de sécurité. Alors Iker en chiffres, bon, c'est une société qui existe depuis 2004, hein, comme tu l'as dit, environ 700 employés, il y a 15 filiales dans le monde, on a des clients dans 55 pays. On surveille, on suit des actifs industriels pour un montant qu'on estime proche des 70 milliards d'euros. Et on a un fort ancrage en Wallonie, en Flandre. En 2020, EY nous a décerné ce fameux prix entreprise de l'année, qui est une grande fierté. Et aujourd'hui, la croissance top line, donc du chiffre d'affaires d'Iker, c'est plus de 30% année après année. Et on vise 70 millions de chiffres d'affaires sur 2023.
Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire avec ce prix de l'entreprise de l'année 2020. J'aimerais que tu nous expliques un peu l'histoire d'Iker depuis son origine. Donc moi, ce que j'ai lu sur Iker, c'est donc en fait que l'idée même d'Iker avait trouvé son origine dans un mémoire de fin d'études de Fabrice Brion, si je me trompe pas, donc le cofondateur et actuel CEO, lui-même petit-fils d'un réfugié polonais, comme il le précise dans une interview. Et ensuite, j'aimerais bien que tu m'expliques, tu me racontes un peu quelle est la culture d'entreprise si particulière chez Iker et pourquoi c'est une entreprise si attachante qui fait que finalement elle a gagné ce prix si prestigieux de l'entreprise de l'année 2020.
Alors Iker a commencé en 2004 par une bande de 3 amis, Montois, et aujourd'hui Fabrice Brion et Arnaud Stievenard sont toujours actifs dans la société. Alors Fabrice en fait a fait son mémoire de fin d'études d'ingénieur dans le domaine de la maintenance prédictive. Et ensuite, il a rejoint une société qui s'appelait à l'époque Coservice pour commencer son expérience professionnelle, et c'est ce qu'il aimait déjà à l'époque. Mais assez vite, il a senti l'envie et le besoin de travailler finalement sur ses propres solutions et ce qu'il avait en tête. Et comme tout bon entrepreneur, si on ne lui laisse pas la liberté, ben il la prend. Donc il a décidé de quitter à ce moment-là Co-Service et il a lancé iCare en 2004, je crois, depuis le grenier de chez sa grand-mère. Donc ça, c'est le début d'iCare. Et puis iCare a grandi, s'est développé, ils ont engagé un premier employé, puis un deuxième, ils ont ouvert des filiales à l'étranger, notamment en Italie, en Pologne, en France. Il y a le département R&D qui a pris forme et qui a grandi. Et en 2016, est sorti le premier petit sensor qu'on appelle le WeCare, qui est la solution hardware de l'application iCare. En 2017, il y a eu un rachat important d'ARG Europe, qui était finalement la première acquisition d'iCare. Et en fait, pour la petite histoire, ARG était la société premier employeur de Fabrice à l'époque. Donc, une espèce de boucle comme ça qui était bouclée. Et ce rachat d'ARG, en fait, était important parce qu'il a doublé la taille de l'entreprise et il a ouvert aussi des marchés sur lesquels n'était pas encore iCare à l'époque, c'est-à-dire principalement la Belgique Nord, mais aussi les Pays-Bas et le côté plus nordique de l'Europe. S'en est suivi en fait une augmentation de capital pour pouvoir financer cette acquisition et là sont rentrés donc en 2018, donc 14 ans après la création d'iCare, d'autres investisseurs qui sont la SRIW qu'on appelle oui maintenant Wallonie Entreprendre et IMBC qui est Investments Borinage Centre en fait. Et puis effectivement en 2020, entreprise de l'année qui était un très beau cadeau, c'était malheureusement pendant le Covid, donc à part Fabrice et les quelques officiels, on était tous derrière notre écran.
Vous n'avez pas pu le fêter tous ensemble.
On a pu le fêter, mais pas au moment même. Et l'année d'après, on avait été invité, quand Andou a reçu le sien, on était invité un peu plus que d'habitude parce qu'on n'avait pas été là l'année précédente, quoi. Alors, pour revenir à ta question sur la culture d'entreprise, je pense que ce qui différencie iCare par rapport à d'autres, c'est que le modèle entrepreneurial est vraiment fort. Hein, comme je le disais, Fabrice Brion, qui est fondateur, toujours le principal actionnaire, CEO et responsable de la R&D d'iCare. On a Arnaud Stivenard, qui est aussi toujours très présent, même s'il a d'autres activités, il a toujours un bon pied dedans. Et finalement, les deux ont une vision assez claire et s'y maintiennent. C'est un peu typique des entrepreneurs, mais une très grande ténacité, ils ne lâchent pas, et je pense que c'est ce qui fait notamment la force. Mais le plus important, surtout, c'est qu'ils ont depuis, très rapidement, après la création d'iCare, ils ont ouvert le capital aux employés. D'ailleurs, en 2021, on a réussi à réouvrir le capital aux employés. On pensait qu'on allait récolter plus ou moins 3 millions d'euros, mais c'est plus de 10 millions d'euros qui ont été récoltés en 2021, essentiellement avec donc les employés existants ou alors d'anciens qui avaient déjà participé aux premières augmentations de capital interne, mais qui ont reparticipé ici. Donc ça fait plus de 250 employés d'iCare qui sont actionnaires de la société. Et ça montre finalement un petit peu la confiance des collaborateurs dans le projet et dans l'aventure qu'est iCare. Et bon, ça montre aussi évidemment la motivation et l'engagement vis-à-vis de la stratégie et son adhésion, quoi.
Tout à fait, c'est très très impressionnant à entendre en tout cas. De start-up à PME, pour ensuite devenir un groupe, iCare a bien grandi depuis 2004 et donc a réalisé 5 acquisitions en 6 ans, a prévu l'ouverture de 12 filiales à l'étranger courant 2023 et par conséquent un millier de recrutements dans les 5 ans. À quel point tout cela a un impact sur ton métier de CFO ?
Ouais, l'impact, il est quotidien, en fait, hein. Et là, finalement, vraiment, la réalité et les certitudes d'aujourd'hui ne sont certainement pas celles de demain. En 4 ans, on a dû constamment avancer, suivre la croissance, lancer de nouveaux projets pour justement s'adapter. Et un département finance, un département de support, il suit ça. Alors, on est rarement en avance, on essaie d'être le moins possible en retard, mais on suit vraiment cette dynamique. Et depuis 2019, on a connu pas mal de projets, pas mal de changements. On a eu les premiers audits de nos comptes, on a eu une première consolidation parce qu'on remplissait les critères. On a décidé aussi de faire une conversion en norme IFRS sur 3 années. On a eu effectivement, on est occupé par 4 acquisitions, en tout cas depuis que moi j'ai joint le groupe et leur intégration. deux augmentations de capital avec les Family and Friends, comme je le mentionnais, mais aussi en novembre l'année passée, des nouveaux investisseurs qui sont rentrés dans le capital d'iCare, la création de nouvelles filiales. Et donc finalement, on s'adapte, on se remet en question de façon constante et on crée l'équipe et l'écosystème qui tourne autour et qui fonctionne. Et tout ça, ce n'est possible que grâce aux gens de l'équipe et à l'aventure humaine qui est liée à ça. Sinon, c'est impossible d'y arriver évidemment seul ou sans construire une vraie équipe cohérente.
Oui, et d'ailleurs, j'allais te demander comment était structurée ton équipe financière. Est-ce que ça va changer? Est-ce que cette équipe va changer avec la croissance du groupe?
Elle change déjà, en fait. Aujourd'hui, dans nos filiales qui grandissent, c'était pas le cas avant, mais on a maintenant d'office, en tout cas, un responsable comptabilité finance qui a un chouette petit rôle parce qu'il participe à cette croissance, il a un peu le temps d'apprendre sans avoir trop le temps, mais il peut devenir un petit directeur financier local, même si on fait encore appel à des bureaux locaux pour tout ce qui est plutôt compliance au niveau TVA et taxes. Et alors au niveau central en Belgique, puisque c'est là qu'est notre maison mère, basée à Mons, et elle le restera, on a les départements plutôt centraux, au niveau de la compta, au niveau du controlling, au niveau de la gestion taxe, cash et aussi la conso. Donc oui, ça évolue avec la croissance. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la conso IFRS, on l'a sous-traité, qu'on a fait la conversion, maintenant on l'internalise et on a aussi les outils pour. La nécessité aussi avec le développement de nouvelles filiales d'avoir une plateforme commune au niveau du software comptable et pour les nouvelles entités. Et alors, on a aussi les États-Unis qui se développent très fort. Et là, on a ce qu'on appelle un headquarter number two, qui est un petit peu centralisé aux US pour l'Amérique nord-sud, en fait.
OK. Très chouette. Je vais maintenant changer de sujet. Il y a un sujet passionnant que j'aimerais aborder avec toi. C'est celui de l'intelligence artificielle. On en a un petit peu parlé en off. Mais vous avez inclus l'intelligence artificielle dans votre produit. C'est donc un sujet dont on entend beaucoup, beaucoup parler aujourd'hui, avec notamment ChatGPT. Je me demandais si au sein de votre département financier, vous avez déjà commencé à intégrer l'intelligence artificielle.
Alors, l'intelligence artificielle, elle est intrinsèquement liée à l'histoire d'iCare, puisque ce qu'on fait avec la maintenance prédictive, comme je le mentionnais tout à l'heure, donc il y a vraiment la solution, elle est basée sur deux étapes clés, qui est la partie hardware et la partie software. Donc la partie hardware, on va collecter les données, comme je le mentionnais tout à l'heure, avec les petits wickers, nos petits capteurs. Et après, ces données qui sont devenues des données digitales, elles sont transférées vers notre software qu'on appelle IC, et c'est là que la magie de l'intelligence artificielle va opérer grâce aux données qu'on a collectées depuis des années chez d'innombrables clients. Donc je veux dire, l'intelligence artificielle, c'est iCare. C'est la même chose quelque part. Sans ça, iCare n'existerait pas. Et au sein du département financier, on y pense et on l'intègre, et on y réfléchit, c'est sûr, mais il y a encore beaucoup à faire. Au sein de notre département financier, toutes les données financières sont digitales, avec un software comptable qui est complètement web-based et très pratique d'accès. La même chose pour notre outil de reporting. Et on a lancé un projet corporate, un projet groupe, il y a peu, qui s'appelle DataGear. Et l'idée, c'est de centraliser dans une seule base de données toutes les données de la société. Mais donc pas que les données purement opérationnelles client et ce qu'on peut faire au niveau vraiment du core business d'iCare, mais aussi toutes les données qui sont dans tous les départements, afin vraiment de pouvoir avoir une seule source, les contrôler, et finalement aussi appliquer ce qu'on fait pour le compte de nos clients et donc le diagnostic des machines, mais aussi pour d'autres départements tels que la finance. Oui.
Et peut-être d'un point de vue un peu plus philosophique, est-ce que tu penses que quel est l'impact, penses-tu que ça aura cette intelligence artificielle dans le monde du travail? Est-ce que ça va un jour remplacer l'humain?
Alors remplacer l'humain, ça certainement pas. Et je pense que Fabrice le mentionne très souvent aussi, il parle plutôt d'intelligence augmentée. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de vrai là-dedans. Bien entendu qu'il y aura un impact, notamment sur le travail, je dirais peut-être un peu plus de back-office, où les métiers vont clairement évoluer. Mais finalement, comme ça l'a été déjà dans le passé, l'émergence des tableurs, des outils tels que BI, ça a changé le métier d'un comptable, d'un financier, d'un contrôle de gestion. C'est pas pour ça qu'on n'a plus besoin des humains et des collaborateurs. Donc, effectivement, il va y avoir une évolution. Et l'intelligence artificielle, je pense, va apporter des solutions collectives à des problèmes communs que beaucoup de gens, de sociétés vont rencontrer. Et finalement, cette mise en commun va apporter des solutions au niveau, solutions plus rapides, peut-être plus pertinentes et performantes. Et il y a, par rapport à la nécessité d'un besoin de reporting qui est toujours de plus important, notamment avec les reportings non financiers et les directives européennes en la matière, ben, ça va certainement aider. Je pense aussi que les what if scénarios, les prévisions, les forecasts, les budgets, et tous ces exercices qui occupent quand même pas mal le département financier dans n'importe quelle société, ben, va pouvoir être aidé et va changer par rapport à cet apprentissage continu. Et donc, je pense qu'on va changer aussi un petit peu les tâches de certains collaborateurs et des tâches à plus haute valeur ajoutée. Mais évidemment que l'humain va rester. De même que dans notre core business, même si les algorithmes font beaucoup, on a toujours un ingénieur qui reste en contact direct avec le client. Notre approche, ce n'est absolument pas que le client ait des dashboards et sans contact avec iCare. Donc, on reste tout à fait maître de la discussion finale, du diagnostic et des actions qu'il faut prendre par rapport à ce que donne justement cette intelligence artificielle. Et ça, c'est important et j'y crois profondément. Oui.
Je retiens en tout cas que tu as une vision très positive de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet qui est souvent, voilà, qui fait souvent un petit peu peur. Et je vais passer donc à un autre registre. Dis-moi, Jean-Thomas, quelle est l'ambition pour le futur d'iCare et comment est-ce que tu t'y prépares en tant que CFO ?
L'ambition au niveau de l'intelligence artificielle, en tout cas, ben, on sait qu'on ne peut pas louper le train. On a, comme je le disais, ce fameux projet d'Atagir qui va nous y aider. Et je pense que je le vois, moi, effectivement, plutôt, comme tu le disais, comme une opportunité. Et je suis plutôt positif par rapport à ça. Et alors, concernant vraiment iCare, ben, on ne s'est jamais vraiment caché que... une IPO, donc une rentrée en bourse, était un scénario possible pour l'histoire d'iCare. Mais bon, on reste quand même prudent par rapport aux réalités du marché, parce que le marché n'est plus ce qu'il était par rapport à 2020, par exemple. On s'y prépare, c'est un sacré défi. En tant que responsable financier, c'est rarement un exercice qu'on fait deux, trois fois dans sa carrière. C'est beaucoup de travail et de découverte à la fois, même si j'ai bossé dans des sociétés cotées, être vraiment dans une transition et un IPO, c'est quand même deux choses fort différentes. Alors bon, on s'est préparé et on se prépare. Hein, quand je parlais d'une première console, d'une conversion IFRS, ben, IFRS, on est déjà dedans. C'est des obligations pour une société cotée. Au niveau de la gouvernance, on a fait beaucoup de progrès. On a maintenant un audit committee, un remuneration committee, qui sont aussi des obligations pour une société cotée. On a maintenant en interne une personne qui s'occupe de tous les aspects légaux qu'on n'avait pas non plus. Et alors l'année passée, j'ai suivi une formation avec Euronext qui s'appelle TechShare, qui reprend en fait, c'est un programme qui s'étale sur 6 mois et qui est une somme de webinaires, de workshops, de rencontres avec des experts du métier et qui rassemble des sociétés actives au niveau de la tech et qui envisage bah, l'IPO comme potentielle source de financement. Donc ça, c'est un petit peu les défis, en plus que suivre la croissance qui est importante chez iCare. Oui.
Et donc l'IPO, elle serait prévue pour quand ?
Alors, c'est compliqué à dire parce qu'on n'est pas seul à décider, il y a la réalité du marché. Ce qu'on voudrait bien, c'est finalement avoir le confort de pouvoir choisir la bonne fenêtre de tir et donc d'être préparé en amont, éviter de se retrouver dans l'autre situation où il y a une opportunité, il y a un timing qui est bon, mais on n'est pas prêt, donc on doit retarder. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. Le timing, après, exact, on verra un petit peu ce que dit le marché, mais ce n'est pas encore arrêté.
Tout à fait, chaque chose en son temps. Je vais déjà passer aux questions de fin traditionnelles de l'épisode. Alors, tu as eu normalement un petit peu de temps de te préparer sur ces questions, comme chaque invité. La première, je te la pose, Jean-Thomas, c'est qui considères-tu comme le mentor de ton histoire ?
J'ai beau y réfléchir, j'ai jamais un nom qui m'est revenu plus qu'un autre, mais par contre, j'ai vraiment des images de collègues qui sont parfois devenus amis dans chacune des expériences professionnelles que j'ai connues, brillantes et inspirantes pour moi. Et finalement, un peu comme en cyclisme ou en athlétisme, je pense que ce qui est important et ce que j'ai essayé de faire, c'est de comme un lièvre, hein, c'est de prendre sa roue et de le suivre. parce qu'on a à apprendre et que c'est très enrichissant. Et ça fait grandir. Donc, je dirais, multiples mentors.
Top, mais c'est une réponse. Est-ce que tu as une potion magique ou une botte secrète qui t'aide au quotidien, dans ton quotidien de CFO ? Alors,
moi, ce qui m'aide au quotidien, que ce soit dans mon rôle professionnel ou même en dehors, c'est finalement aller puiser l'énergie positive dans les relations humaines. Mais aussi s'éloigner des personnes qui sont toxiques. Ça, je pense que c'est aussi important pour se préserver.
Mais oui, tout à fait. Ça, c'est la base. Donc, je vais passer donc à la toute dernière question. Jean-Thomas, je te laisse être aussi créatif et philosophique que tu le souhaites, mais quelle est la morale de ton histoire ?
Alors, ça, c'est un peu compliqué parce que... Mais je dirais, je ne suis pas un solitaire, ça, c'est certain. J'aime bosser en équipe, j'aime être entouré de gens. Et il y en a une qui m'est venue à l'esprit en réfléchissant à ça. C'est un proverbe africain, je pense, qui dit, et ça me correspond vraiment bien, et dans la vie professionnelle et non professionnelle privée, seul on avance plus vite, mais ensemble on avance vraiment plus loin. Je pense que ça me correspond tout à fait.
C'est une magnifique note de fin. Je te remercie Jean-Thomas d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Et je te dis à bientôt.
À bientôt, merci Laurie.
Once Upon a Business est une production Emasphère, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits.